Europe 1, présidentielle 2022.
L'invité de la matinale.
Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste et candidat à l'élection présidentielle, est l'invité d'Europe Matin jusqu'à 9h. Mathieu Bock-Côté nous a rejoint. Bonjour Mathieu, bienvenue.
Bonjour.
Fabien Roussel, vous avez parlé de Saint-Amand-les-Eaux tout à l'heure au nord de Valenciennes. Il y a un très joli échevinage, une grande usine du laboratoire GSK aussi. Et c'est de là-bas que vous avez posté vos vœux. Vous avez ensuite mis sur votre compte Twitter. Et dans ces vœux, vous souhaitez pour 2022 exactement ce que vous venez de nous dire à l'antenne, sortir la santé des griffes de la finance, et vous enchaînez avec cette formule « Faisons tomber le mur de l'argent ». Alors ça, c'est un classique de la gauche, hein, 1924, 1936, 1981, et je suis frappé par cette convocation d'un imaginaire révolu, et qui m'interpelle dans la mesure où vous dites « ma priorité c'est l'argent, la priorité c'est le pouvoir d'achat ». Est-ce qu'on peut faire ça aujourd'hui sans les entreprises, sans les marchés, sans le capitalisme? Très concrètement, Fabien Roussel, aujourd'hui.
Oui, sinon je ne serais pas candidat à l'élection présidentielle. L'argent. L'argent, l'argent, l'argent. Je souhaite que l'on parle de ce mur de l'argent qui aujourd'hui empêche notre pays de se développer. L'argent. L'argent qui manque à ces salariés qui travaillent dans l'industrie. L'argent qui manque à ces salariés qui sont dans les services publics, qui ont des missions essentielles et qui ne permettent pas de vivre dignement. L'argent qui manque à ces retraités qui ont travaillé toute une vie, qui se retrouvent avec des retraites de moins de 1000 euros. L'argent qui manque pour investir, investir dans l'école, dans la santé, dans des hôpitaux de proximité, dans les maternités. Comme je l'ai dit, c'est la Commission européenne qui nous impose des économies dans ce domaine. Et l'argent, l'argent qui coule à flot, pour quelques milliers de privilégiés, des grandes fortunes, des actionnaires, les grands actionnaires, pas les petits, les grands actionnaires de ces multinationales ou des banques, des assurances. L'argent, il existe. L'argent, notre pays est riche, extrêmement riche. Mais ces richesses, aujourd'hui, sont accaparées par une minorité de privilégiés qui tiennent le système économique.
Qui, pour certains, créent des emplois, rappelons-le.
Une forme d'oligarchie financière qui prive, justement, la majorité de nos concitoyens de pouvoir vivre dignement et d'avoir des services publics à la hauteur.
Très concrètement, est-ce que c'est un problème de partage de la richesse, d'un partage de la valeur entre le travail et le capital? Ou est-ce que le problème, c'est le capitalisme en lui-même?
Ce sont les deux. D'abord, il y a un problème de partage de la valeur. Et jamais le capital n'a été autant servi que ces dernières années. Sous la présidence de Hollande, Sarkozy, Hollande et Macron, trois présidents de la République qui ont fait le choix à chaque fois de donner plus au capital et moins au travail. Mais c'est pas seulement ça, sinon je ne serais pas candidat à la présidentielle. Ça ne suffit pas de mieux répartir les richesses. Nous voulons produire autrement. Produire autrement, ça veut dire que travailler dans les usines, comme dans les services publics, comme dans les champs, sans pour autant épuiser la planète, épuiser les hommes et les femmes. Nous voulons pouvoir nous émanciper au travail, vivre heureux au travail, produire les richesses de telle sorte que ça serve à tout le monde et que nous puissions aussi participer à leur distribution, participer à la reconstruction de la France. Ne plus dépendre justement d'une minorité d'actionnaires ou de banques, mais de décider nous-mêmes, nous réapproprier nos moyens de production. Mais il faut changer complètement de logique. On n'en peut plus de ce système économique qui décide tout, tout. Et nous, nous subissons tout. Eh bien, nous voulons nous mettre fin véritablement à ce système et retrouver le pouvoir de décider de nos choix de vie, de nos investissements et de la manière de produire.
Alors, vous mobilisez ici l'imaginaire, le langage, la rhétorique de la gauche communiste, ce qui tombe bien puisque vous êtes candidat communiste à la présidentielle. Mais la gauche communiste n'est qu'une gauche aujourd'hui parmi bien d'autres. Fin 2021, un des grands thèmes de la fin de la dernière année, c'était celle de la fracture des gauches, de la division des gauches. Il y a la gauche Roussel, assurément. Il y a la gauche Taubira. Il y a la gauche Mélenchon. Il y a la gauche Jadot. Il y a la gauche Rousseau. J'en oublie probablement plusieurs. La question que j'aimerais vous poser, tout simplement, c'est au-delà de la diversité de toutes ces gauches, y a-t-il néanmoins, entre vous, un point de contact fondamentalement, une conviction partagée qui ferait en sorte que les gauches soient aussi une gauche?
Oui, là, il y a une différence fondamentale entre la gauche et la droite par rapport, concernant ce système économique, celui dont je viens de parler. C'est que la différence fondamentale, c'est que la droite, elle, entend tout libéraliser et laisser entièrement le marché, le capital décider. Quant à gauche, et selon des degrés divers, eh bien, il y a des formations qui veulent réguler plus ou moins le système Et c'est là où nous avons des divergences entre nous, sur la manière dont nous pouvons reprendre la main sur le système.
Donc la critique du capitalisme demeure le point de contact entre les gauches. De Manuel Valls à vous, le point de contact, c'est la critique du capitalisme.
Je ne sais pas si on peut encore classer Manuel Valls à gauche, ça c'est à lui d'y répondre.
Il y a répondu, il se veut de gauche,
je sais.
Vous n'avez pas l'air d'y croire.
Non, en tout cas...
Pourquoi c'est vous qui délivrez les brevets d'appartenance à la gauche?
Pas du tout.
Vous êtes assez nombreux à gauche pour pouvoir chasser un bon élément.
Je pense surtout que nous avons besoin de retrouver une gauche sincère, authentique, qui d'un côté renoue avec les valeurs qui sont les siennes, les valeurs universalistes, celles qui, sans état d'âme, dit qu'il n'y a qu'un seul être humain, il n'y a qu'un seul genre humain, qu'il n'y a pas de race et que nous devons nous battre pour l'égalité des droits des êtres humains. Et puis, une gauche sincère et authentique qui dit que l'Europe dans laquelle nous sommes aujourd'hui est une Europe exclusivement au service de la finance et que nous voulons retrouver notre souveraineté économique et démocratique. Cette gauche, eh bien, il y a une partie de la gauche qui a tourné le dos à ça. La gauche qui a été au gouvernement et qui a fait le choix de signer les traités européens ultralibéraux. Cette gauche, elle a renié. Elle a renié ses engagements, justement, en direction du peuple et du monde du travail. Moi, je souhaite, justement, réincarner une gauche qui veut servir le peuple. Servir. Vous entendez ce mot ? Servir le peuple. Se mettre résolument du côté du peuple et avec lui, pour lui, reconstruire la France.
Mais la division des gauches n'est pas artificielle. Je me permets de citer un débat récent entre Yann Brossat, votre directeur de campagne, et Sandrine Rousseau dans les pages de Libération. Je le cite, vous me direz ce que vous pensez de son commentaire. « En répondant à l'extrême droite, y compris avec de bons arguments, on leur permet de dicter l'agenda politique. Ils ont l'intelligence de parler de sujets sur lesquels ils savent qu'ils sont majoritaires, comme l'immigration ou la sécurité. » Fin de la citation. Considérez-vous, comme votre directeur de campagne, que ce qu'il appelle l'extrême droite est majoritaire sur les questions d'immigration et de sécurité aujourd'hui en France?
Bah, en tout cas, il ne parle exclusivement que de ça. Et donc,
non, mais est-ce que lorsqu'il dit majoritaire, ça veut dire qu'il correspond au sentiment majoritaire des Français?
Je pense qu'effectivement, ils ont réussi à imposer ces thèmes dans le débat politique et en imposant ces thèmes, détourner l'attention du débat des Français sur d'autres sujets qui nous semblent, nous, prioritaires, comme celle des questions sociales, du pouvoir d'achat, du travail.
Alors c'est un lapsus de Yann Brossat, qui semble dans la citation concéder qu'il y aurait une majorité en France.
Idéologiquement, la majorité est à droite sur ces questions. Peut-être sur les questions qui sont les vôtres, la majorité serait ailleurs, mais est-ce qu'on se retrouve donc avec une double majorité en France ?
Je partage l'idée que ces idées sur la sécurité et l'immigration sont majoritairement portées par l'extrême droite. Et on voit bien la dérive du climat politique dans notre pays.
Mais est-ce qu'on peut pas être de gauche et vouloir un contrôle de l'immigration?
Mais c'est pour ça que j'allais dire.
Fabien Roussel, en lisant votre programme, vous êtes l'un des seuls candidats de gauche qui assume de parler d'immigration, de sécurité.
J'allais y venir. Et c'est bien la raison pour laquelle, sur ces questions qui sont essentielles, importantes, je ne souhaite pas que ce soit l'extrême droite qui occupe ce terrain majoritairement. Et je souhaite, moi, faire de la question de la sécurité, de la tranquillité publique une question importante. Je l'ai dit dès le début de ma campagne. Je ne supporte pas que dans mon pays, il y ait des ghettos où la police n'ait pas le droit de rentrer, où les pompiers ne peuvent plus intervenir. Je souhaite que l'État, la République, puisse réinvestir tous ces quartiers et que chaque citoyen, où qu'il habite, ait le droit à la tranquillité publique. Ce qui pose d'ailleurs pas seulement la question de la police et de la gendarmerie, mais ce qui pose aussi la question du retour de la République par des services publics, par des hommes et des femmes, des éducateurs, des services jeunesse, des équipements sportifs et avec les salariés qui vont avec. Et donc nous avons besoin de réinvestir ces quartiers. Donc la question de la sécurité, elle est pour moi importante, aussi importante que celle de l'emploi et du pouvoir d'achat. Et je souhaite la porter pleinement et y donner justement un contenu de gauche, progressiste, rien à voir avec le Front National, avec l'extrême droite, qui, elle, parle de privatiser la police, parle de donner ses moyens de police aux villes, par les polices municipales, alors que pour nous c'est une question nationale, c'est à l'État d'assurer la sécurité des citoyens.
Manuel Valls, au grand rendez-vous, juste avant les fêtes, disait « il faut arrêter l'immigration et stopper le regroupement familial ». Il le disait au nom d'une perspective de gauche, disait-il. Est-ce que cela suffit pour vous à le chasser de la gauche, ou est-ce que c'est un point de vue qui a sa place aujourd'hui dans une grande coalition de gauche qui aurait à la fois des éléments comme vous et des éléments comme Manuel Valls ?
Ah, je pense que cette idée qu'il a développée n'a pas du tout sa place à gauche. D'ailleurs, il s'est fait dans son parti, Parti socialiste, tout le monde a dit que c'était inadmissible qu'un ancien Premier ministre et qu'un responsable communiste tiennent de tels propos. Mais je sens bien qu'il y a un grand débat. Il y a une idée qui se développe de plus en plus, à droite et à l'extrême droite, et je le regrette avec des personnalités comme Manuel Valls, qui disent que le regroupement familial, c'est terminé. Et je regrette cette position. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette position. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, un homme, une femme, ne peuvent plus décider de qui, avec qui ils veulent se marier et vivre. C'est ça, on met fin à l'amour entre un homme et une femme que l'on empêcherait de vivre ensemble. C'est ça la fin du regroupement familial. Le regroupement familial, c'est le droit à un homme et une femme de vivre ensemble avec leurs enfants. C'est inscrit dans le préambule de notre Constitution. Ça fait partie de la Déclaration universelle des droits de l'homme que nous avons écrit au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et j'entends à droite et à l'extrême droite des responsables politiques qui veulent justement, quand ils disent qu'ils veulent faire un référendum sur la question migratoire, c'est parce qu'ils veulent retirer de notre Constitution ce droit d'asile, ce droit au regroupement familial que l'on doit accorder à chaque couple, à chaque homme, chaque femme.
Demander à la population.
Qui doivent pouvoir vivre ensemble.
Demander à la population.
Et c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses que de se battre
Monsieur
pour
Roussel,
ça.
Monsieur Roussel, demander à la population de s'exprimer, c'est retirer quelque chose, forcément.
Non, ce n'est pas ça. C'est que, ce que je veux dire, c'est que quand ils font appel à un référendum, sous-entendu, on va avoir un grand débat. C'est parce que comme c'est inscrit dans notre Constitution, il n'y a que le référendum qui peut demander à retirer de la Constitution française un tel principe. Et c'est pour ça que ça va très très loin et que c'est grave. Je regrette que Valls s'inscrive dans ce débat. Et pour ma part, nous ne devons pas changer notre Constitution française, qui a été écrite notamment au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec des grands principes, des grandes valeurs que nous devons défendre.
Alors justement, on vous demandera dans un instant, Fabien Roussel, qu'est-ce qu'un communiste comme vous pense de l'outil du référendum? C'est une bonne question. On parlera aussi d'un nom qui circule beaucoup en ce moment à gauche, Christiane Taubira. Restez avec nous, Fabien Roussel est l'invité d'Europe Matin jusqu'à
9h. 6h30, 9h.
Europe Matin.
Le point sur l'actualité, c'est le journal permanent Alban Le Prince.
Le variant Omicron représente deux risques, selon Olivier Véran ce matin. Une saturation des lits d'hospitalisation conventionnels et un dysfonctionnement de la société. Ce sont les craintes exprimées par le ministre de la Santé alors que Jean Castex organise une réunion sur le sujet aujourd'hui autour de 10 ministres. Vous avez peut-être déjà déposé vos enfants à l'école. Nouveau protocole sanitaire en vigueur ce matin. Un cas de Covid dans une classe et tous les élèves doivent se faire tester 3 fois. Ce matin, sur Europe 1, Fabien Roussel, candidat communiste à la présidentielle, dit non au pass vaccinal. Les députés se penchent à partir d'aujourd'hui sur le projet de loi qui transforme le pass sanitaire en pass vaccinal. Ce sera au Sénat, mercredi, pour une entrée en vigueur le 15 janvier. Un mot de foot pour terminer avec la Coupe de France en 16e. Vannes reçoit le PSG ce soir à 21h10 sans Lionel Messi, positif au Covid. Hier, deux clubs de 4e division se sont qualifiés en 8e, Versailles et Bergerac.
Europe 1, présidentielle 2022.
L'événement politique est sur Europe 1.
Fabien Roussel est l'invité d'Europe Matin jusqu'à 9h. Nous sommes avec Sonia Mabrouk et Mathieu Bock-Côté. Alors on a parlé d'une figure de la gauche, Manuel Valls. Un autre nom circule activement en ce moment à gauche, c'est celui de Christiane Taubira, Mathieu.
Alors Christiane Taubira se présente ces derniers temps comme la femme providentielle qui pourrait rassembler les différentes gauches sous un même étendard. Comment accueillez-vous sa possible candidature, une déclaration d'envisageure fin décembre, déclaration de candidature peut-être à la mi-janvier. Comment accueillez-vous cette candidature?
J'attends, moi, qu'elle fasse son chemin, puisque pour l'instant, elle ne parle que d'envisager. J'attends qu'elle atterrisse, tout simplement. En tout cas, on m'interroge depuis des mois en me disant « mais il y a beaucoup de candidatures à gauche, et là, il y en a une nouvelle qui s'ajoute ». Et donc, je ne comprends pas l'objet de cette candidature.
Elle ne veut pas s'ajouter. Elle veut même anesthésier. Alors, d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle a de plus que vous, Christiane Taubira, pour penser qu'elle peut incarner à elle seule cette candidature unique à gauche?
Je ne suis pas certain qu'elle puisse incarner une candidature unique à gauche. Je connais Christiane Taubira, elle a été candidate en 2002 à l'élection présidentielle, elle était ministre sous Hollande. Je me souviens que quand nous manifestions contre les lois El Khomri et les ordonnances Macron, qu'elle était plutôt en soutien du gouvernement et pas en soutien des salariés contre ces lois qui ont fait beaucoup de mal au monde du travail. Et donc, elle défend une idée de la gauche et de la social-démocratie qui, c'est mon analyse, a plutôt fait du mal à la gauche. Et donc je souhaite, moi, tourner cette page à gauche. Je souhaite écrire une nouvelle page à gauche, d'une gauche qui va véritablement renouer avec le monde du travail, qui va servir le monde du travail, qui va être résolument du côté du peuple, comme je le disais tout à l'heure. Ce n'est pas, mais c'est mon analyse, ce que représente Christiane Taubira, et encore, je vous dis, moi, qu'elle présente son programme. Nous sommes à 4 mois d'élection présidentielle, je trouve un peu léger de venir aujourd'hui dans la campagne sans avoir d'éléments programmatiques à proposer plus que ça. Enfin, c'est quand même une élection sérieuse. Pour ma part, nous y préparons depuis plus d'un an. J'ai fait le tour de France, je continue de le faire. Nous avons un programme que nous avons présenté d'ici quelques jours, avec plus de 170 propositions. Voilà, il faut être quand même minimum sérieux quand on se présente à cette élection et que l'on a un programme à défendre pour la France.
Mais la division des gauches, on l'évoquait plus tôt, vous parlez d'une division sur la question sociale. Mais est-ce que ce n'est pas aussi, entre vous et Christiane Taubira, une division sur la question sociétale et même sur la conception de la nation? Vous représentez une gauche qui se veut patriote, une gauche qui se veut populaire, une gauche qui se veut sécuritaire aussi. Madame Taubira représente peut-être une gauche multiculturaliste, une gauche qui se veut moins sévère sur les questions de sécurité, moins rigoureuse sur les questions de sécurité. Est-ce que le désaccord, il ne se situe pas aussi à ce niveau entre les gauches et peut-être aussi entre la gauche et la population?
Je sais pas. Je sais pas parce que je connais pas son programme.
Donc, vous connaissez quand même
son... Ne me demandez pas. D'abord, j'aime pas les mots que vous utilisez et que vous collez à la gauche que je souhaite représenter. La
patriote,
gauche,
c'est pas
la
si
gauche
mal.
Sécuritaire, patriote.
Il y a plus de résultats que patriote.
D'accord. Enfin, vous avez une manière de résumer le programme que je représente.
Je représente à la lumière de ce que
une
vous
gauche
avez dit.
Qui défend.
Qu'on se comprenne bien. Quand on dit que vous êtes patriote, c'est pas un compliment.
Je défends, moi, une gauche et une république qui veut retrouver sa souveraineté dans ses choix démocratiques et économiques. Je défends une gauche qui veut défendre et faire respecter le droit à la tranquillité publique pour chaque citoyen. Et ça veut dire que c'est pas sécuritaire. Ça veut dire que pour moi, la tranquillité publique, c'est autant des moyens de service d'ordre que des moyens de service public. Et donc,
permettez-moi de clarifier. Je dis patriote, vous dites « je n'aime pas ce terme que vous utilisez pour me qualifier ». Généralement, c'est bien vu, patriote.
Oui, d'accord. Mais laissez-moi présenter mon programme avec les qualificatifs qui lui vont bien.
Mais justement, à propos de programme, vous parlez beaucoup de la gauche, Fabien Roussel, vous parlez peu de communisme. Et on vient de célébrer le 30e anniversaire de la disparition de l'URSS. Quel regard, justement, portez-vous sur les États communistes en 2021? Ils s'en soutiennent sur le doigt d'une main. Hein. La Chine, Cuba, la Corée du Nord, le Laos, le Vietnam. Mais pardonnez-moi, ce sont des régimes communistes qui sont très différents, je vous le concède. Y en a-t-il un qui est en faveur parmi ces régimes-là?
Attendez,
Fabien Roussel, sont des régimes communistes, vous revendiquez communistes. Expliquez-nous.
La candidature que je représente, elle a été décidée par ma formation politique. Donc, personne ne doute d'où je viens et par qui je suis soutenu. Et je ne le cache pas.
Qu'est-ce que c'est qu'être communiste en France en 2022? Puisque nous sommes en 2022, j'ai parlé de 2021, mais
être communiste en France, c'est défendre l'égalité réelle des citoyens. C'est mettre l'être humain, l'homme avec un grand H, l'homme et la femme, au cœur de tous les choix politiques. Mettre l'être humain au cœur de la société. Et donc, défendre l'égalité des citoyens. Voilà. Être communiste, c'est la fraternité. C'est aussi faire en sorte que nous puissions défendre et la fraternité entre les hommes et la fraternité entre les peuples. C'est porter la voix de la paix et que la France retrouve son indépendance à ce titre.
Et la liberté.
Et la liberté. Oui, la liberté.
Parce que dans le triptyque républicain, vous avez cité égalité, fraternité.
La liberté collective et la liberté individuelle qui doivent se marier ensemble. Et quand je parle de liberté collective, c'est celle que nous puissions, nous, retrouver, nous, le peuple de France, dans les choix que nous voulons faire dans notre pays. Aujourd'hui, nous n'avons plus la liberté de choisir nos choix politiques, car ils sont commandés.
Attendez, mais si oui. On n'a plus la liberté de choisir nos choix politiques, ce n'est plus une démocratie.
Parce que nous sommes aujourd'hui soumis aux règles de l'Union européenne, soumis au pacte de stabilité, soumis à un pacte budgétaire qui nous a imposé de vendre des services publics, qui nous a imposé des mesures d'économie terribles dans certains de nos services publics comme l'hôpital et comme l'école. Des règles budgétaires qui nous ont imposé une concurrence déloyale avec des peuples de l'Union européenne.
Monsieur Roussel, on a été soumis à l'Europe quand on a eu le plan de relance européen.
Nous sommes battus.
On ne vous a pas entendu crier à la soumission quand on a eu le plan de relance.
Quel parti politique en France s'est battu contre le traité de constitution européenne en 2005.
Nos
élus, ont été les seuls, nos deux groupes à l'Assemblée nationale et au Sénat, à nous être battus contre ces traités, que ce soit en 1995, traité de Maastricht, jusqu'au traité de Lisbonne et jusqu'au traité de constitution européenne.
Je pense que ça faisait allusion au plan de relance européen pendant la crise sanitaire.
On peut lui dire merci, non ?
750 milliards.
De l'Europe, parce que
moi qui défends justement une autre conception de l'Europe, je n'aurais pas fait un plan de relance à ce niveau, c'est-à-dire extrêmement bas. Comparer le plan de relance de l'Union européenne à celui mis en place par Biden aux États-Unis. Eh bien, nous avons besoin d'un plan de relance justement en Europe et pour l'économie européenne plus ambitieux. Et d'ailleurs, le GIEC lui-même recommande à ce que les plans de relance pour obtenir nos objectifs climatiques soient à hauteur de 6% du PIB.
Il y a donc des bienfaits à cela.
De l'Union européenne. C'est pour ça que nous voulons nous reprendre la main sur la Banque Centrale Européenne et sa possibilité de créer de la monnaie. Eh bien, quand une Banque Centrale Européenne peut créer de la monnaie comme elle le fait, ça ne doit pas être pour mettre cet argent au service des banques et ensuite aux États, mais directement aux États, et avec des critères précis, sociaux et écologiques. Ça, c'est le projet communiste que nous portons, c'est mettre l'argent au service de critères précis que sont les politiques sociales et écologiques dont nous avons besoin dans notre pays.
Vous avez dit il y a quelques minutes, plutôt du mal du référendum, référendum sur l'immigration que proposent certains candidats à la présidentielle. Mais est-ce que le référendum, quel que soit son sujet, est-ce que ce n'est pas l'expression de la souveraineté populaire à laquelle vous êtes attaché? Et est-ce qu'un peuple ne devrait pas être en droit de redéfinir sa constitution s'il le veut par des modalités entendues comme le référendum?
Nous sommes, nous, de ceux, et je l'ai dit pendant le mouvement des Gilets jaunes, qui défendons l'usage du référendum autant que de besoin sur des grands sujets de société.
Et l'immigration n'en est pas un.
Et c'est important. Vous êtes un peu obnubilé, M. Bocoté, par l'immigration.
C'est vous qui avez abordé la question.
Non, vous rigolez. La première question que vous me posez, c'est sur le regroupement familial.
Non, c'est une question qui crie la gauche. Et c'est pas vous nous dites qu'elle ne doit pas s'appliquer.
Non.
Mais quelle question vous poseriez en référendum, Fabien Roussel?
Je dis que les questions, les grandes questions de société qui peuvent se poser pendant un mandat doivent pouvoir être traitées par des grands débats et à la limite, et autant que possible, par un référendum. C'est une exigence des Français, donc nous pouvons le faire.
Mais
un référendum, ça veut dire...
Quelles sont les grandes questions, Fabien Roussel?
Fabien Roussel, justement, pour rejoindre ce que dit Dimitri, hier, au grand rendez-vous sur Europe 1, CNews, Les Échos, Michel Onfray, philosophe, dit que la grande question de cette présidentielle, elle est carrément civilisationnelle. Et pas moins que cela. C'est-à-dire qu'on a un rendez-vous crucial, pas seulement pour l'avenir de la France, mais dit-il, pour l'avenir de la civilisation. Est-ce que pour vous, c'est un peu trop évanescent? Est-ce que c'est une véritable question à laquelle vous pensez également?
Mais nous sommes là en pleine élection présidentielle. L'élection présidentielle, c'est quand même le moment où les candidats et les Français présentent leur projet pour la France, pour les 5 ans à venir, sur des grands sujets. Et donc, c'est pas un référendum, mais presque quand même. Et donc, c'est à cette occasion que les Français vont pouvoir choisir le président ou la présidente qu'il leur faut pour les 5 ans qui viennent. Donc, il ne s'agit pas de dire qu'au lendemain de l'élection présidentielle, on fera un référendum. Le choix, il est normalement indiqué dans les programmes de chacun. Donc, les Français doivent s'intéresser fortement au programme de chaque candidat. Et donc, à mon sens, je le dis comme ça simplement, je ne pense pas qu'il y a besoin de faire un référendum 6 mois après une élection présidentielle, puisque les Français, normalement, savent ce que le président a prévu de faire, c'est dans son programme, sauf s'il décide de basculer, de changer complètement d'avis. Mais par contre, pendant le mandat, qu'il y ait des référendums, et même à entrées multiples, comme on dit, comme ça se fait dans d'autres pays. Mais pourquoi pas, ça peut nous aider à progresser, à avoir des débats sincères entre nous, et aider une majorité à faire son choix. Et donc moi j'y suis largement favorable, faisons en sorte qu'il y ait le plus de débats possible. Mais quand même, l'élection présidentielle et les élections législatives sont là pour quand même donner une orientation à un moment donné.
Mais y a-t-il des sujets, inversement, sur lesquels le référendum ne devrait pas s'appliquer, si je comprends bien votre logique?
Il y a des sujets concernant des droits fondamentaux, comme la peine de mort, par exemple. Je ne pense pas qu'il faille revenir sur des sujets de ce type par référendum.
Bien sûr, on va conclure ce format présidentiel. Fabien Roussel, un mot sur votre slogan, c'est le défi des jours heureux. Il est vrai que quand on entend ce slogan, on a envie tous d'y adhérer, sans forcément être tous communistes, peut-être parmi nos auditeurs.
Mais allez-y, mais franchissez pas, faites votre coming out, Sonia Mabrouk, il n'y a pas de problème.
Mais comment vous savez ce que je pense, monsieur Roussel?
Mais c'est parce que vous dites on a envie d'y adhérer, donc je vous pousse, allez-y, mais ne vous retenez pas. Peut vous faire du bien, vous verrez.
Ça peut être un nouveau slogan.
Mais vous savez,
Monsieur Roussel, ça fait du bien, c'est ça?
Mais non, mais les jours heureux, ça doit faire du bien à la France. Les jours heureux, c'est pour nous l'occasion de dire aux Français, c'est possible. Les jours heureux pour les jeunes, ça ne parle pas forcément, mais ils ont tellement envie de renouer, d'avoir des jours heureux, ceux qui ont 20 ans, 25 ans aujourd'hui. Et les jours heureux, je finis là-dessus, c'est le programme porté par le Conseil national de la Résistance, et c'était pendant la guerre. Et je peux vous dire que pendant la guerre, l'horizon n'était pas clair, d'accord ? Il était lourd. Et pourtant, ils ont imaginé les jours heureux et ils ont écrit les 30 glorieuses. Alors oui, moi, je propose les jours heureux pour écrire les 30 prochaines années les plus heureux possibles pour toutes les générations.
Merci beaucoup, Fabien Roussel.
Merci, Fabien Roussel. Merci.